Toutes et tous, bonjour Sylvie.
Bonjour Karina.
Bienvenue dans La Locale, votre rendez-vous d'information locale au quotidien du mardi au jeudi à 12h15. À deux voix à chaque fois.
Absolument. Alors au sommaire de cette locale donc du mardi 9 décembre, eh bien nous parlerons de la solidaire avec Rachel, la solidaire nouvelle recyclerie zone de gratuité pour échanger des objets en tout genre à Perruche. Léonie est allée promener le micro de Radio BLV au lycée Camille Vernet, là où elle est étudiante. On aura quelques infos, je vous proposerai quelques infos. Et puis, on verra comment notre signature peut être précieuse pour les personnes dont les droits humains ne sont pas respectés avec Michel Rostand d'Amnesty International Valence.
Et on commence donc par la solidaire avec Rachel qui est au téléphone avec nous à Péru. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Eh bien très bien, merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Donc la solidaire, c'est une nouvelle recyclerie, donc un lieu de collecte d'objets, d'échange d'objets pour la population. Comment est-ce que ça fonctionne?
Oui, c'est ça. La solidaire existe depuis maintenant 6 mois à peu près. Elle a ouvert ses portes après le premier confinement. Et le principe, c'est une zone de gratuité. Donc si vous faites un peu de vide ou de rangement chez vous et qu'il y a des objets qui sont encore en état de fonctionnement ou d'usage dont vous ne vous servez plus, vous pouvez les déposer à la solidaire. Et inversement, si vous avez besoin de vêtements, d'objets électroménagers, vous pouvez venir à la solidaire et voir s'il y a des choses qui vous intéressent et les prendre.
Et est-ce que c'est le confinement qui a eu une influence sur la création de ce lieu? Parce que tu dis que ça a été créé juste après le premier confinement.
Alors, à l'origine, ce n'est pas le confinement qui a poussé à la création de la solidaire. C'est un projet qui était déjà dans les tuyaux de l'équipe municipale de Pérou. Néanmoins, le contexte du Covid, en fait, et le premier confinement a clairement accéléré le projet. En fait, l'idée de l'équipe municipale, c'était de faire évoluer un peu la question de la solidarité dans le village, les notions de partage, de convivialité, de soutien collectif, etc. Donc on travaillait sur ce sujet au travers de plusieurs projets. Et au moment du confinement, ça a clairement immobilisé en fait toutes nos actions. Et on s'est dit non, il ne faut pas tomber dans ce travers de l'immobilisation. Bien au contraire, on n'a jamais autant eu besoin de solidarité. La solitude et le manque de moyens sont encore plus prégnants dans un contexte de confinement. Donc on va redoubler d'efforts et donc on a accéléré le projet. On a travaillé, on va dire, pendant le premier confinement. Et à partir de là, on a ouvert le lieu, en fait.
Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a amélioré la situation localement pour plus de solidarité, par exemple?
Alors, ce que je peux dire, je ne pourrais pas m'exprimer au nom des gens qui sont dans le besoin, ce que je peux dire, c'est que ça a fonctionné très vite. La première réaction des gens a été de se dire « Mais où est-ce qu'on paye? Et pourquoi on ne paye pas ?» Ça a été vraiment un grand questionnement au début de dire « Mais non, il n'y a pas de rapport à l'argent, c'est une zone d'échange et de partage, de gratuité. » Donc ça a été, au début, ça a été une curiosité pour les gens. Et ensuite, ils ont adoré ce principe que justement l'argent ne soit pas au cœur des choses et qu'il y ait vraiment cette idée de partage. Donc ça a fonctionné très vite. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ça a permis de déployer un élan de convivialité et de solidarité évident. C'est-à-dire qu'on a énormément de dons et on a plein de gens qui viennent aussi trouver leur bonheur et échanger. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'au-delà du fait que c'est hyper sympa de venir à la solidaire, on est sûr de rencontrer des gens et qu'on va discuter, puis on va aller faire son marché en même temps, ça tombe bien, c'est le jour du marché, c'est qu'il y a un rapport à l'objet, en fait, à la possession, à la propriété, qui, qui est questionné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent cet objet est chouette, j'ai envie de le prendre, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce serait pas plus utilitaire pour une autre personne? On a des enfants qui viennent, qui disent ce jouet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et donc, ils vont le prendre et peut-être 3 semaines après, ils vont le ramener en disant j'ai beaucoup joué avec, c'est super, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre, comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir en profiter. Donc, on trouve ça assez intéressant d'observer que ça a fait évoluer dans les usages et dans le rapport au fait de posséder un objet ou de le partager.
Et si on s'imagine rentrer à l'intérieur, ça ressemble à quoi comme ce lieu? Qu'est-ce qu'il y a comme genre d'objet?
Alors, ça ressemble à un grand bazar qu'on essaye de ranger au fur et à mesure. C'est pas évident. Ça ressemble à une espèce de brocante. On trouve beaucoup de vêtements. Il y a une grosse rotation sur les vêtements d'enfants notamment, avec plein de parents qui viennent, qui ont des petits et qui grandissent très très vite. Donc là, c'est super intéressant de traverser les âges. Généralement, les parents qui viennent, qui déposent un sac de vêtements et qui repartent avec un sac de vêtements, parce que le petit a pris quelques centimètres entre-temps. Et après, on a plein de vêtements pour adultes également. On a plein de là en ce moment. On a des combines de ski, on a des vêtements d'hiver, on a des blousons d'hiver, des chaussures. Donc il y a un gros pôle vêtements. Après, il y a un gros pôle aussi jouets d'enfants et matériel de puériculture. On a pas mal de vaisselle, on a un peu d'électroménager. Puis après, il y a des objets un petit peu d'adéco. Il y a des trucs qui arrivent. Des fois, on n'aurait jamais pensé que ça pourrait arriver ici. Et ça arrive ici. On se dit, mais personne ne voudra ça. Et là, quelqu'un arrive et trouve son bonheur. Et c'est marrant. On a des disques, on a des magazines, on a des déambulateurs, par exemple. On a vraiment plein de choses qui peuvent servir. On a des infirmières qui viennent régulièrement trouver du matériel. On a des institutrices qui viennent régulièrement faire une rotation de leurs jeux ou de leurs livres pour enfants. Donc voilà, on trouve de tout.
C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment tous différents quand même. Il y en a pour tout le monde dans ces endroits.
Oui, tout à fait.
Est-ce que les personnes qui utilisent ce lieu viennent de loin ou est-ce que c'est vraiment plus des gens du village?
Alors, on est situé sur Péru. On va dire qu'on est sur le bassin de vie de la Raille, des villages donc de proximité qui vont être Château-Double et Combeauvin. On a beaucoup de bénévoles, parce que ça fonctionne qu'avec des bénévoles, je ne l'ai pas précisé. On a beaucoup de bénévoles de Château-Double, de Combeauvin, des gens également de Chabeuil. On a du monde qui vient de Charpay et de Saint-Vincent-la-Commanderie. On va dire que ça tourne autour de ce périmètre-là. Après, on a un peu de gens de Montpellier, parfois on a des gens de Valence. Mais c'est plutôt à la marge. Donc voilà, on est sur un périmètre, on va dire, d'une petite dizaine de kilomètres, avec des dépôts, des retraits. Ça fonctionne très très bien sur un périmètre comme celui-ci. Donc c'est un modèle qui peut très bien se déployer
dans d'autres endroits. Oui.
Et aussi par rapport au projet futur, parce que donc là c'est un projet récent mais qui fonctionne bien, j'ai vu que vous prévoyez de mettre en place des ateliers.
Alors on a plusieurs envies. Alors après, c'est le contexte.
On ne t'entend plus très bien, Rachel.
Oui,
ah, c'est mieux. Oui, beaucoup mieux.
Voilà, excusez-moi. Oui, en fait, on a des enjeux. Après, c'est le contexte qui nous freine un petit peu. Un premier projet qui devrait voir le jour assez rapidement, ça va être une zone de prêt. Donc là, on n'est pas dans le « je viens prendre », mais « je viens emprunter ». Donc on va certainement mettre en place une bibliothèque d'appareils à raclette, à fondue, à tondeuse, taille haie. Et donc quand on en a besoin, c'est-à-dire à un moment donné et pas tout le temps, on va éviter d'encombrer son garage ou ses placards et on va juste venir prendre l'électroménager ou l'objet dont on a besoin pour le samedi soir si on a des invités. Donc ça, c'est le premier projet qu'on va déployer, cette zone de prêt. Après, dans le futur, enfin, on a déjà commencé à le tester, évidemment, c'est l'idée d'organiser des ateliers. Alors, des ateliers de réparation, des ateliers de lessive, ça on a déjà fait, de fabrication, on va dire en do it yourself. En fait, les ateliers, ils seront déployés en fonction des savoir-faire qu'on va rencontrer. Donc, s'il y a des gens qui me disent, là, on a un monsieur qui vient et qui nous a dit, je reconnais tous les chants des oiseaux et je pourrais très bien organiser une balade, une promenade, en expliquant aux enfants, aux adultes, quel est cet oiseau et comment, quel est son chant.
Ah, génial.
Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. On a déjà fait l'atelier de fabrication lessive. On aimerait faire de la réparation de vélo, la réparation de ski avant le sport d'hiver. Enfin, cette année, c'est un peu compliqué, mais enfin, voilà. L'idée, c'est de rentrer plus profondément dans l'économie circulaire, dans l'économie du partage, de la réparation, pour faire les choses nous-mêmes, pour que ça coûte moins cher, qu'on n'ait pas besoin de racheter un vélo ou des skis, c'est juste à les réparer. Alors voilà, toute cette logique un peu conviviale et solidaire.
Mais merci beaucoup Rachel, ça fait du bien d'entendre parler justement de projets qui créent du lien en ce moment.
Et alors... merci à vous.
Il y a une chose qui pourrait être sympathique. On vous dit, quand tu disais tout à l'heure que vous aviez des objets parfois assez insolites, on pourrait imaginer un petit cabinet de curiosité à la Solidaire qui soit juste une vitrine pour encourager les gens aussi à apporter les objets les plus insolites qui puissent se trouver.
C'est une idée, c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, on a un petit endroit qui pourrait ressembler à ça aujourd'hui, je vous cache pas. Ouais, c'est une bonne idée.
Ça donne envie de passer vous voir, en tout cas.
Eh bien, volontiers.
Donc, pour venir voir, c'est le samedi de 10h à 12h, c'est bien ça?
C'est ça, exactement, sur la place du marché, au cœur du village.
Parfait, facile à trouver. Merci beaucoup, Rachel.
Merci à vous.
Merci
bonne
beaucoup,
journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Et je vous propose maintenant d'écouter le micro-trottoir de Léonie qui a demandé aux lycéens du lycée Camille Vernet comment est-ce qu'ils vivent cette période.
Salut Karina. Alors aujourd'hui, je suis allée demander à mes camarades de Camille Vernet comment ils se sentaient dans cette période un peu spéciale. Alors, il faut savoir que nous à Camille Vernet, on est à 100% du temps, 100% en présentiel. Alors que dans d'autres lycées, ils choisissent de faire 50-50, comme par exemple à Loubet, dans le coin. C'est quand même important parce que c'est pas la situation du coup de tout le monde, vu que c'est quand même notable qu'on soit tous tout le temps au lycée. Du coup, je vous laisse écouter tout ça.
Bah franchement ça va, au lycée c'est plutôt, ça devient pas désagréable de vivre au lycée quoi. C'est une vie qui est plutôt... je vais pas dire normal parce qu'avec les masques c'est totalement différent, mais ça change pas non plus les habitudes d'habitude du coup.
Ouais, je suis d'accord moi. Et puis c'est assez bien géré quand même. Le lycée il a bien géré la situation, donc on n'est pas passé en distanciel parce que moi j'avais pas trop envie de passer en distanciel.
C'est plus agréable pour suivre les cours parce qu'on a bien vu que pendant le confinement. On décrochait pas mal, quoi, surtout sur les matières un peu compliquées, genre les maths, les choses comme ça. Donc là, c'est mieux.
Comment tu te sens en ce moment?
C'est assez compliqué avec le Covid, vu qu'on peut pas sortir et qu'on est obligé de rentrer à l'école et retourner à la maison. Et porter le masque toute la journée aussi, c'est compliqué, c'est dur. Et socialement aussi.
Je trouve la situation elle est un peu compliquée parce qu'en soi, les règles sanitaires, on ne les respecte pas tous, comme les distanciations sanitaires. On est tous collés serrés dans les escaliers, dans les couloirs. Et à la limite, à la cafétéria, au self, on enlève nos masques. C'est logique en soi, mais les règles sanitaires, elles ne sont plus très existantes. Et après, y a les masques, ils ont fait plusieurs mesures, mais je trouve que c'est pas assez... comment expliquer Il n'y a pas assez de règles, on va dire, qui sont bien mises en place et qui sont respectées.
Merci. Vous êtes en terminale, comment vous sentez par rapport au bac?
C'est encore plus stressant. Enfin, après, il y a les 2-3 C qui ont sauté, mais c'est vrai que c'est encore plus stressant. Mais sinon, moi je suis d'accord avec elle, c'est bien de pouvoir aller en cours et de garder une régularité, parce que sinon, préparer le bac, si on n'avait pas pu aller en cours tous les jours, ça aurait été compliqué, quoi.
Ouais, d'un côté, c'est rassurant qu'on soit toujours en cours, quoi. Donc on a de la chance.
Moi, je trouve que c'est un climat assez anxiogène pour tout le monde, parce que toutes les personnes un peu sensibles vis-à-vis des virus et un peu hypochondriaques de base, elles sont plus bien du tout. Et pour leurs proches, etc., je pense que ça peut être compliqué. Et puis ça vient vraiment animer des tensions entre le peuple, si on peut dire. Mais voilà, et après il y a le gouvernement aussi qui en profite pour vraiment... on peut pas dire de gros mots, genre, faut éviter, non? Ben, enfin, je sais pas, en même temps c'est, ouais, de la colère parce qu'on se sent un peu, désarmé face à la situation, parce qu'en tant que lycéenne, j'aimerais bien qu'il y ait plus de mouvements à Valence, etc. Autant pour...
Des mouvements pourquoi ?
Contre le gouvernement vis-à-vis du corona, parce qu'ils nous privent de toutes nos libertés sans rien nous demander. Et ça répond à aucun moment à ce qu'on appelle une démocratie. Et en plus de ça, la loi globale, en fait, c'est un tas de choses qui font que c'est un peu désespérant, mais bon, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin, ça ressemble un peu au scénario des romans de science-fiction catastrophiques. Et ça fait peur pour l'avenir, mais en même temps, il y a plein de sociologues qui avaient prévu ce genre de choses. Donc ça vient que confirmer ce qu'on pensait.
On oublie de réfléchir par nous-mêmes. Et en plus, du coup, comme elle a dit aussi, ça j'ai trouvé intéressant que ça crée des tensions entre nous, parmi les gens du même... Genre, ça divise beaucoup les gens, toute cette histoire, qui se détestent les uns les autres pour leur avis.
Yes.
Alors qu'on devrait justement s'unir, réfléchir ensemble et faire quelque chose, quoi.
D'un point de vue plus de nous en tant que lycéens, je trouve que vraiment cette période, elle nous vole vraiment une partie de notre vie qu'on devrait avoir. Et c'est vraiment difficile de rester positif dans la situation parce que... ça a tendance à déprimer de ouf si tu prends pas sur toi pour rester positif et essayer de continuer à avancer et à croire qu'il y a de l'espoir.
Merci.
Et merci aussi à toi, Léonie, d'être allée voir les autres élèves de ton lycée. C'était vraiment très intéressant. Et tout de suite, on retrouve Sylvie pour quelques informations locales.
Alors, appel à la vigilance et prudence à la veille des fêtes de fin d'année de la part du préfet de la Drôme. Depuis quelques jours, le nombre des contaminations à la Covid-19 dans le département reste à un niveau important et il sera difficile d'atteindre le cap des 5000 cas par jour fixé par le président de la République au niveau national pour enclencher la deuxième phase du déconfinement le 15 décembre prochain et notamment, vous le savez, la réouverture des lieux de spectacle et des cinémas. Face au risque élevé de rebond de l'épidémie, prudence, responsabilité sont les maîtres mots. Alors, la plus grande vigilance est notamment de mise dans les lieux très fréquentés, tels que les centres commerciaux et les grandes surfaces, tout particulièrement à la veille des fêtes de fin d'année. Alors moi, je vous propose un truc, c'est que pour vos cadeaux, privilégiez les petites boutiques, les circuits d'artistes et d'artisans et artisanes d'art locaux et locales. Nous avons la chance d'être dans un département qui regorge de talents nombreux et variés. Profitons-en donc.
Ah oui.
Bravo aux Bourquennes et plus largement aux habitantes et habitants de la Drôme-Ardèche pour leur solidarité. En effet, suite à l'appel aux dons lancé il y a 2 semaines par la ville et le comité de jumelage de Bourg-les-Valence en faveur de l'Artsac, ce sont environ 120 tonnes de produits de première nécessité qui ont été récoltées. Vêtements, électroménagers, linge de maison, fournitures scolaires, matelas et bien d'autres indispensables ont été récoltés grâce à une 60aine de bénévoles, dont beaucoup de jeunes venus de Bourg-les-Valence, Romans ou encore Montélimar. Un premier chargement de 40 tonnes partira ce vendredi pour un long trajet qui passera par Marseille, où le conteneur sera embarqué direction le port de Poti en Géorgie, puis 600 km de route jusqu'à Yerevan, la capitale de l'Arménie, où il sera réceptionné par le maire de Chouchi, qui est une des villes jumelles de Bourg-les-Valence, qui gère les centres de réfugiés. Un système de dons financiers a été aussi mis en place pour les denrées alimentaires à acheter sur place. Le chargement de ce premier conteneur se fera donc ce vendredi en présence de Ovanès Gevorkian, représentant de la République d'Artsakh, et de Levon Davtian, vice-consul d'Arménie à Lyon, accueilli par Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valence, Robert Tafankedjian, adjoint délégué aux relations internationales, et Josette Léora, président porte du comité de jumelage. Bravo encore une fois à toutes et tous pour votre générosité. Et votre solidarité, plus que générosité, c'est vraiment de la solidarité entre humains. Demain, petite auto-promo, demain jeudi 10 décembre, nous vous proposons avec l'Université Grenoble-Alpes une table ronde sur le sujet femmes et université à 18h. Alors la semaine dernière, c'était le Forum Jeunesse en Mouvement et là, ce sera autour des femmes. Vous entendrez Élise Butel, doctorante en sciences humaines à l'UGA, Fabienne Bonnefoy, enseignante FLE et chargée de la vie associative à Sciences Po Grenoble, Delphine Delaunay, directrice générale de la Fondation Revaltin, Laurie Soual, étudiante en master marketing à l'UGA, et Marlène Jouan, maîtresse de conférences en philosophie à l'UGA et membre IUF Junior. Madison Fernandez et Louise Bécouche, étudiante relais égalité pour le service égalité et lutte contre les discriminations de l'UGA, animeront cette table ronde dont je serai modératrice. Alors, quelle est la place des femmes aujourd'hui au sein de l'université ? Existe-t-il des filières genrées ? L'accès aux carrières universitaires est-elle égalitaire ? Comment les promotions de 2020 vivent-elles l'égalité femmes-hommes ? Autant de questions que nous aborderons, bien entendu. Pour des raisons techniques, cette table ronde sera enregistrée demain en début d'après-midi et diffusée à 18h, donc de 18h à 20h. Vos questions sont d'ores et déjà les bienvenues sur la page Facebook ou sur le mail suivant contact@radioblv.com avant demain 13h. Voilà pour ces quelques brèves.
Merci Sylvie. Et du 4 au 13 décembre, Amnesty International lance sa campagne mondiale annuelle des 10 jours pour signer, temps fort de mobilisation en faveur des défenseurs des droits humains. Nous sommes au téléphone avec Michel Rostand d'Amnesty International Valence. Bonjour Michel.
Bonjour Carina.
Bonjour Michel.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, je vais bien. Je suis très très contente de pouvoir échanger sur Radio BLV.
Donc, il y a une campagne particulière en ce moment où vous essayez de récolter un maximum de signatures. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, bien sûr. Tous les ans, Amnesty, enfin depuis quelques années maintenant, Amnesty International lance une campagne mondiale. C'est une campagne qui est annuelle et c'est toujours aux alentours du 10 décembre puisque c'est la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée en 1948. C'est un temps fort de mobilisation en faveur des défenseurs des droits humains et surtout de personnes dont les droits n'ont pas été respectés. Alors cette année, c'est un petit peu particulier parce que nous ne pouvons pas récolter des signatures comme nous le faisons actuellement sur des pétitions papier. Nous mettons l'accent sur les signatures en ligne.
Oui, parce que d'habitude, j'imagine que le groupe de Valence va dans les rues pour faire signer les habitants.
Voilà. Chaque année, la municipalité de Valence nous met à disposition une petite tente, enfin un petit barnum, et à côté de la mairie. Ça se passe souvent un mercredi après-midi. Et nous recueillons un maximum de signatures papier. C'est toujours très intéressant parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle un contact public et puis de l'information.
Ça permet d'expliquer tous les enjeux autour des droits humains dans le monde. Et donc, il y a plusieurs pétitions. Il y a une pétition par personne qu'Amnesty tente d'aider, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et cette année, c'est 11 cas. Alors, il est évident qu'on ne va pas vous présenter tous les cas. Je peux en présenter quelques-uns ?
Ah oui, avec plaisir.
Alors, c'était difficile de faire un choix. Mais bon, il faut bien un petit peu faire ressortir quelque chose. Donc, Janice Silva, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui vit en Colombie. Elle défend la forêt amazonienne, les droits des paysans et la paix dans son pays. Mais elle est menacée de mort. Elle a été contrainte de fuir son domicile avec sa famille. Il y a Poppy Kwabe et Bonkega Fongula, alors je vous prie de m'excuser sur la prononciation parce qu'il est possible que je me trompe un peu. Ce sont deux jeunes femmes d'Afrique du Sud, deux jeunes étudiantes, et elles ont été assassinées en 2017. Et leurs familles se battent actuellement pour avoir une enquête de police. Pour avoir une véritable enquête, parce que l'enquête de police est entachée d'irrégularité et il n'y a aucune avancée probante. Voilà pour les deux premières. Et la troisième personne que je voudrais vous présenter, c'est Raled Rareni. C'est un journaliste qui vit en Algérie. Il était inculpé et condamné à 2 ans de prison ferme parce qu'il couvrait une manifestation du mouvement pacifique, le Irak, et qui réclamait plus de démocratie. Voilà donc pour ces trois personnes, pour les trois personnes que je voulais vous présenter.
Et quelle efficacité est-ce que ça a, une pétition ? Est-ce que vraiment ça peut sauver des vies ?
Alors, oui, effectivement, c'est souvent une question qu'on nous pose, et des milliers de signatures sont récoltées par Amnesty International dans le monde, hein. Mais également des milliers en France. Et ça permet d'améliorer concrètement le sort des personnes soutenues, libération, condamnation, de responsables de violations des droits humains, l'amélioration des conditions de détention. En 2019, 70 sections, alors on appelle sections, c'est les pays d'Amnesty International, ont mené plus de 6 600 000 d'actions, donc signatures de pétitions, à travers le monde pour les 10 situations. Et je peux vous donner là aussi 3 exemples de dossiers qui ont avancé.
Ah oui.
Par exemple, pour Catherine Alu, pour laquelle donc on défendait les droits aux signatures 2019, elle est observatrice de la Ligue des droits de l'homme, donc ce qu'on appelle aussi LDH, et elle avait été arrêtée. Et elle était poursuivie en pénal et elle a été relaxée des chefs d'accusation qui pesaient contre elle. Cette pétition d'ailleurs était signée également, enfin c'était une pétition commune avec la Ligue des droits de l'homme.
Oui, donc
il y a le cas des oui.
Non, effectivement, ça peut faire suffisamment de pression pour relâcher une personne.
Et là, j'ai 2 autres exemples. Donc, les jeunes de Grassinaro, qui vivent en Ontario, au Canada, et qui se sont battus pour avoir la construction d'un centre de soins à la hauteur de 19 millions de dollars. Donc, ils ont eu gain de cause suite à l'empoisonnement des rivières de leur région au mercure par une usine.
Génial.
Et puis, il y avait le cas dramatique d'un jeune homme qui était condamné à mort au Soudan du Sud. Il avait 15 ans, hein, à l'origine des faits pour lesquels il a toujours clamé son innocence. Il était donc condamné à mort et il y a eu une annulation de sa condamnation par pendaison le 14 juillet dernier.
Ça fait plaisir, ces bonnes nouvelles.
Et vous pouvez en voir d'autres sur le site d'Amnesty. Sur le site d'Amnesty, donc www.amnesty.fr.
Et est-ce que tu sais comment Amnesty International choisit ces personnes qu'elle souhaite aider ?
Oui, c'est toujours par enquête. Hein, le travail d'Amnesty, enfin, comment je peux dire, voilà, c'est enquêter, alerter et agir. Donc, au départ, il y a toujours des enquêtes. Amnesty a des chercheurs qui se dérangent, enfin, qui vont sur les pays et qui croisent les informations.
D'accord.
Mais ce sont toujours des cas qui vous sont signalés par soit par l'environnement proche, soit par la famille.
Tout à fait, l'environnement ou des fois, enfin, c'est souvent la famille, mais ça peut être aussi des observateurs. Donc, Amnesty International met en lumière différents cas et chaque pays, en général, prend le nombre de cas qui sont présentés. Et cette année, il y en avait 10 et un 11e, un 11e, c'est présenté très récemment dans le cadre du Covid, d'ailleurs.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que c'est une médecin Tatiana Reva, qui est donc médecin dans une unité de soins intensifs au Kalatch-sur-le-Don, là aussi, hein, je prononce peut-être mal, en Russie. Et elle est la cible de représailles parce qu'elle a dénoncé la pénurie d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical de son hôpital. Et en plus, elle fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par la police à la suite d'une plainte qui émane du chef de service de l'hôpital. Elle risque des poursuites pénales pour l'instant.
Donc au niveau d'Amnesty, vous remarquez aussi des conséquences de l'épidémie sur les droits de l'homme directement?
Tout à fait. Ben, malheureusement, le Covid-19, alors moi j'en parle au masculin, hein. Je continue sur le départ, enfin, on en parlait au masculin, donc je continue. Le Covid-19 ne stoppe pas les violations des droits humains. Par contre, il est beaucoup plus, enfin, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, d'enquêter, de se rendre sur les lieux, enfin, pour plein de raisons, pas pour les raisons sanitaires d'ailleurs, hein. Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty, l'a signalé en disant qu'effectivement, la crise était marquée, enfin, que la crise sanitaire du Covid-19 marquait l'année 2020, mais que cette épreuve ne doit pas pour autant nous faire oublier que les hommes et les femmes continuent de voir leurs droits violés. Alors bon, la Russie, je viens de le dire. En Syrie, l'accès aux soins est déficient. Je pourrais vous donner d'autres exemples, hein, mais bon, je vous donne cela. En Syrie, l'accès aux soins est déficient. Le système de santé est déjà ébranlé par 10 années de guerre. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est 50% seulement des hôpitaux à travers le pays qui fonctionnent pleinement. Et c'est 25% partiellement en raison de la pénurie de personnel. Donc, pour le coup, les gens n'ont pas accès aux soins. C'est la même chose au Venezuela, où le nombre de cas du Covid-19 enregistrés quotidiennement connaît la plus forte accélération dans ces dernières semaines. Mais les autorités ne font pas le nécessaire pour protéger la population. Et au contraire, les autorités vénézuéliennes emprisonnent les femmes et les hommes médecins et les équipes soignantes qui dénoncent ouvertement leurs conditions de travail difficiles.
Oui, puis j'imagine qu'il y a des États qui profitent aussi de l'épidémie pour restreindre encore plus les libertés individuelles.
Tout à fait. Alors, on peut l'imaginer. Et puis même sans vouloir restreindre, même sans le faire d'une façon voulue, le fait de ne pas pouvoir circuler correctement, le fait de ne pas pouvoir se réunir, de pouvoir promouvoir par des conférences, des tables de presse, c'est sûr qu'en ce moment, les droits de l'homme sont un petit peu moins mis en avant, c'est évident.
Est-ce qu'à Amnesty International, vous avez un avis sur la loi de sécurité globale dont on parle tant en ce moment ?
Oui, effectivement, sur notre site, on peut voir un petit peu nos réactions, enfin les réactions d'Amnesty International. Et c'est assez vite d'ailleurs que Amnesty s'est inquiété de l'impact de cette loi et a demandé à chaque membre, alors on a tous reçu, il y a à peu près 109 000 membres en France, hein. D'Amnesty, et chacun a reçu un mail en leur demandant d'intervenir auprès de son député pour un appel de vigilance. Cette loi, si elle est vraiment votée, constitue une grave atteinte au droit, enfin, à l'information, au respect de la vie privée et à la liberté de réunion pacifique. C'est quand même trois conditions qui sont essentielles au droit à la liberté d'expression. Et on déplore que cette proposition de loi ait été examinée en procédure accélérée, alors qu'en fait, il n'y avait aucune urgence qui justifiait ce choix. Et cette procédure restreint, de facto, l'examen approfondi de la situation éclairée de la société.
Merci beaucoup. Sylvie, est-ce que... Non ? Peut-être qu'on peut rappeler pour les auditeurs qui aimeraient participer à cette collecte de signatures où se rendre pour pouvoir signer, donc en ligne malheureusement et pas sur papier comme d'habitude.
Alors c'est www.amnesty.fr.
Et si on veut, s'il y a des gens, des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui souhaitent rejoindre Amnesty, on peut prendre contact aussi via le site ?
Oui, tout à fait. On peut également nous joindre, enfin, on peut nous joindre par téléphone et on peut nous joindre par mail.
D'accord. Mais on peut peut-être donner le mail et le téléphone, alors.
Alors, le téléphone, je ne le sais pas par cœur. J'ai un peu honte. c'est... Excusez-moi une seconde. Alors, sur le site, c'est www.amnistyvalence.fr.
Pour le téléphone, j'ai un 06 sur Google qui s'affiche.
Voilà, c'est ça.
06 73 73 03 84 et l'adresse voilà. 5 Place Saint-Jean à Valence.
Ah non, alors ça, la Place Saint-Jean, j'avais demandé de le corriger. Ce n'est pas fait. C'est maintenant 74 route de Montpellier. C'est Maison d'avis associative. Mm-hmm. 74 route de Montpellier à Valence.
Très bien.
Parfait. Merci beaucoup, Michel, pour...
Merci pour Karina, ce, merci voilà, à vous deux. J'ai entendu une autre voix.
Merci Sylvie, merci.
Merci Karina, bonne journée à vous.
Bonne journée aussi, au revoir Michel.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Absolument.
Je voudrais juste vous lire l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc l'article premier, c'est « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres » dans un esprit de fraternité.
Ça fait du bien de le rappeler.
Oui, merci beaucoup pour ce rappel.
Tout est dit, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Michel.
Merci beaucoup, merci infiniment. Au revoir.
Au revoir. C'est la fin de cette locale. Pas d'émission.
Jamais trop tard de, il n'est jamais trop tard pour rappeler les voilà, c'est
peut-être
les
même
articles,
qu'on ne les rappelle jamais voilà. assez aussi. Pas de local demain, Sylvie?
Non, pas de local demain, puisque ben, on, petit rappel, donc, on enregistre en fait en tout début d'après-midi, donc à partir au moment où normalement on devrait faire la locale, on enregistre donc la table ronde femmes et université. Je vous rappelle qu'elle est portée par l'université Grenoble-Alpes et qu'elle sera dans vos oreilles à partir de 18h, de 18h à 20h. On vous donnera le... Voilà, on enregistre en début d'après-midi pour pouvoir diffuser en fin d'après-midi. Donc, pas de local, effectivement, mais on se retrouvera mardi pour une locale spéciale culture. Voilà. Et d'ici là, on croise toutes et tous les doigts pour qu'effectivement, ça soit une spéciale culture de reprise, de retour dans du spectacle vivant dans nos vies. On en a grandement besoin.
On touche du bois, ça, c'est bien, il y en a partout dans le studio. Et est-ce qu'il y aura dedans dehors quand même, Sylvie, demain
oui,
matin?
Oui, absolument.
Parfait.
Donc, on se retrouve effectivement de 11h à midi pour Dedans Dehors, comme tous les jeudis, avec C'est Jeudi Gypsy, Armelle Vautreau, psychanalyste, avec qui on parlera. Alors, j'ai un trou.
Tu parlais des effets du confinement,
plus,
non
c'est, oui, c'est ça. La santé psychologique de nos concitoyens et concitoyennes.
Sujet
et de
combien
nous toutes
important.
Et tous, suite à ce second confinement qui est quand même assez particulier. Et puis on retrouvera les recettes de placard de Marie Joliel qui va nous pourlécher des babines.
Ah oui, ça donne envie surtout à 12h50.
Ouais, alors juste voilà, histoire de vous donner envie d'être là, on va parler crozet et salade de fruits festive.
Donc ça, vous retrouverez ça dans dehors demain à partir de 11h. Sinon, pour aujourd'hui, la suite des programmes à 13h, vous pourrez écouter Innov Jeunes, des jeunes de Nyons qui organisent un événement pour faire découvrir le skatepark entre deux confinements, vous racontent comment ils ont mis cet événement en place. À 17h, la rediffusion du Dedans Dehors du jour. À 18h, la rediffusion de la locale. 19h, l'émission Les voisins d'à côté. Et puis à 20h30, l'oreille électrique. Bonne journée à tous et à bientôt.
Au revoir.